Cinésique Radio, interview BO par Benoît Bazerico.
Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. N'hésitez pas à laisser vos notes et commentaires et à nous écrire via Cinésique sur Facebook ou Twitter. Malgré la situation de confinement, le festival d'Aubagne a eu lieu en version dématérialisée et Cinésique a pu remettre un prix pour la musique d'un court-métrage dans la compétition française. Allons à la rencontre de son compositeur.
Moi, je suis compositeur. Ah, mais je suis l'auteur de la chanson.
Interview de Pierre Oberkampf, compositeur du court-métrage L'heure de l'ours, lauréat du prix Cinésique et du grand prix du jury au festival musique et cinéma d'Aubagne, qui s'est tenu en ligne du 30 mars au 4 avril 2020, dernier donc. Bravo d'abord à l'équipe du festival, Gaël Rodeville, Jacques Sapiega, Samia Papazov, d'avoir permis au festival de se maintenir malgré l'actualité sanitaire. Un grand bravo donc, puisque tout le public a pu voir en streaming depuis chez soi les films longs et courts-métrages en compétition. Et donc bravo Pierre. Pierre, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup pour ce prix, je suis très honoré.
La musique est très très pertinente, très intéressante pour ce court-métrage d'animation. Alors avant de parler de ce court-métrage, j'aimerais que vous présentiez. J'ai lu que vous étiez donc polyinstrumentiste, donc pratique de plusieurs instruments, une trentaine de courts-métrages à votre actif. D'où vous vient votre savoir de musique de film? Est-ce que vous avez fait le conservatoire ou voilà, quel est votre parcours?
Alors, je me sens très autodidacte, même si je fais partie de ceux qui ont eu cette chance et malchance à la fois de faire du solfège au conservatoire étant petit. Mais en fait, j'ai commencé à vraiment composer de la musique en arrêtant le conservatoire. J'ai découvert le cinéma au moment où j'ai commencé à collaborer avec des amis qui étaient aux Arts Déco de Paris et qui faisaient de l'animation. On m'a proposé assez vite des exercices où il fallait mettre de la musique sur de l'image, tout simplement. Mais vraiment, j'y connaissais rien. Et donc, je suis tombé là-dedans, vraiment un peu par hasard, et ça m'a jamais quitté. Je n'ai jamais arrêté la musique pour l'image depuis. J'étais pas du tout cinéphile, ça c'est clair, et je crois que je suis devenu cinéphile vraiment assez tardivement, et par contre j'ai totalement conscience que c'est presque une chance que j'ai pu quand même connecter avec le cinéma à un moment ou à un autre, parce que je crois que je serais passé à côté de quelque chose qui vraiment me passionne aujourd'hui et qui ne me lasse jamais. J'ai toujours l'impression que le cinéma est plus riche que la vie en général, donc c'est vrai pour la musique de film aussi. Il y a tellement de possibilités que c'est vraiment un domaine dans lequel on peut pas s'ennuyer. Mais voilà, non, quand j'étais au conservatoire, j'étudiais le piano, puis le piano classique, puis le piano jazz. Et puis ensuite, j'ai pris des cours de percussion aussi, de batterie, ce qui m'a beaucoup servi en fait pour composer des musiques par la suite, parce que le rythme, c'est quand même quelque chose d'important. Quand je dis que je suis polyinstrumentiste, c'est un terme un peu pompeux pour dire que je joue assez mal de beaucoup d'instruments, mais c'est très utile pour chercher des idées et pour les proposer ensuite à d'autres musiciens quand on a la chance de pouvoir aller en studio tous ensemble.
Alors, L'heure de l'ours, donc, d'Agnès Patron. Tout d'abord, quelques mots sur L'heure de l'ours. Donc, un film d'animation poétique, presque même parfois expérimental, avec des maisons qui brûlent, des enfants qui se rassemblent autour des cendres et qui chevauchent des ours sauvages. Une musique donc de Pierre Oberkampf, notre invité, avec cette partition pour le court-métrage « L'heure de l'ours » de Agnès Patron, grand prix du jury et prix cinésique au Festival d'Aubagne. Une musique très singulière. Peut-être que le cinéma d'animation l'autorise, autorise cette liberté de timbre. Et évidemment, vous parliez de votre affinité pour le jazz. On sent ici évidemment l'utilisation des cuivres, des percussions. Comment vous avez trouvé cette couleur particulière ?
C'est vrai, c'est une question qu'on a beaucoup travaillé avec la réalisatrice, avec Agnès Patron. On voulait vraiment trouver une formule instrumentale qui soit à la fois puissante comme la révolte de l'enfant et de l'ours, mais aussi qui puisse donner lieu à une qui puisse rester enfantine et maladroite parfois. Donc on voulait pas une musique qui soit trop sérieuse, trop sage et trop polissé, et on s'est dit que voilà, avoir à la fois des instruments propres à la musique classique, notamment les cordes et des instruments à vent, mais aussi des cuivres et des percussions sur des rythmes assez syncopés, ça pouvait être la bonne formule.
Quel a été votre premier contact avec le film ? Est-ce que vous avez vu des premières images ou alors c'est de la discussion avec la réalisatrice ? Parce que finalement, comme je le pitchais un peu rapidement, la narration est plutôt, on va dire, universelle. On ne sait pas à quelle période ça se passe ni dans quel pays. Quel a été votre premier contact et inspiration pour ce film ?
J'étais vraiment déjà dans le projet avant même de le savoir, si je puis dire, parce que Agnès, la réalisatrice, avait écouter des ostinatiques que j'avais composées et enregistrées. C'est une forme musicale que j'aime beaucoup parce que c'est il y a une répétition, mais en fait qui en est qu'à moitié, parce que c'est un jeu sur la répétition et le fait de s'enrichir comme ça organiquement. Et Agnès avait écouté ça et ça lui avait beaucoup plu. Et elle avait pensé en fait à la scène finale de L'heure de l'ours. En écoutant cette musique, alors c'est pas une musique qui est dans le film, mais c'est un peu une musique cousine, on va dire, de la musique finale du film, puisqu'il y a dans L'heure de l'ours une grande partie de la musique du film est construite comme ça sur un ostinato, sur une formule mélodique et rythmique qui se répète et qui s'enrichit. Donc la musique existait déjà un peu avant même de d'écrire la partition et de penser aux images. Et d'ailleurs, elle a été enregistrée très largement, je dirais à peu près 80% de la musique a été enregistrée avant le tournage du film. Et il y a toute une partie du film, notamment la fin, qui a été tournée, montée sur une musique qui avait été préenregistrée. D'où la forte synchronicité entre les images et la musique sur toute la fin du film.
Et Agnès Patron, la réalisatrice, je crois qu'est également la monteuse.
Absolument.
Donc, du coup, il n'y a pas une triangulaire, quoi. Ça se fait vraiment à deux.
Et c'était vraiment sa volonté, en fait, de pouvoir monter et tourner, monter sur vraiment de la musique, sur un tempo défini qu'on avait choisi à l'avance.
Agnès Patron, donc, vous la connaissez déjà depuis longtemps, puisqu'elle était donc à cette école des arts décoratifs que vous évoquiez. Plusieurs donc, courts-métrages d'animation avec elle depuis 2008, avec La valse du pendu. Et donc, il y a eu quatre films comme cela jusqu'à L'heure de l'ours. Du coup, il y a une vraie amitié, une vraie entente, une vraie alchimie. Vous connaissez très bien, donc du coup, j'imagine que la collaboration se fait naturellement. Quelles sont les nouvelles discussions, on va dire, à chaque fois ?
Le fait de très bien se connaître, c'est une chance parce que ça permet de gagner beaucoup de temps et de pas avoir à repartir de zéro quand on aborde un nouveau projet. Et en même temps, c'est vrai que le risque, ça peut être de rester un peu sur sa zone de confort et de plus tenter tellement de nouvelles choses. L'avantage, je crois, c'est que elle comme moi, ce qu'on aime dans le cinéma, c'est justement le fait d'aller explorer des choses qu'on n'a pas forcément vécues ou en tout cas qu'on laisse une place à l'imaginaire et à l'expérimentation. Et donc on a en tout cas un goût commun pour le fait de ne pas se répéter et de chercher vraiment ensemble des solutions assez singulières et assez novatrices, même si on fait jamais quelque chose de toujours on fait jamais quelque chose de complètement nouveau, on s'inscrit toujours dans un héritage même s'il peut prendre plusieurs formes, mais voilà, on avait en tout cas cette volonté de créer quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait déjà entendu et de surtout servir l'histoire, parce que je crois que l'histoire que raconte Agnès avec sa co-scénariste Johanna Krawczyk est quand même assez singulière, et c'était l'idée d'explorer la révolte intérieure d'un enfant, de vraiment d'explorer ça de manière sensorielle et d'avoir une narration comme ça très riche et parfois très expérimentale et abstraite, pour que le spectateur se replonge quelque part dans ses souvenirs et ses émotions d'enfance.
Oui, il y a une abstraction, en effet, où justement on peut interpréter ce que l'on veut. Hein. Là, le spectateur est partie prenante de cette aventure. Aventure abstraite, colorée, assez belle. Colorée et en même temps très sombre. Hein. Il y a beaucoup de noir, hein. Ce qui est très rare d'ailleurs dans les films d'animation d'avoir autant de noir. Hein. Donc c'est très très sombre. Il y a une abstraction, une expérimentation, mais il y a en même temps une unité musicale. C'est-à-dire que la musique ne part pas dans tous les sens. Cette unité passe, j'imagine, par le motif qui revient plusieurs fois.
Ça, c'est quelque chose, pour le coup, auquel je tiens beaucoup, quels que soient les projets, c'est vraiment de me fixer, après une longue discussion avec le réalisateur ou la réalisatrice, un choix d'instrument, et de vraiment m'y tenir du début à la fin, même si évidemment il y a des passages qui peuvent être très minimalistes, comme dans le film, où on entend parfois du violoncelle solo, et puis d'autres passages beaucoup plus riches, où il y a 7, 8, 9, 10 instruments ensemble. Mais voilà, cette formule instrumentale, on l'avait fixée au départ et on s'y est vraiment tenu, je pense, à partir de la cohérence de la bande son. Il y a des passages du film, où on explore beaucoup plus l'abstraction et le jeu sur le son, et beaucoup moins la mélodie, notamment tous les passages du film qui correspondent à des flashs. On voit des maisons en feu qui tombent dans l'univers, on ne sait pas du tout où on est. Donc le spectateur est à la fois un peu perdu et complètement emporté par des sensations. Je pense que la musique participe aussi de ça. Et il y a d'autres passages qui sont beaucoup plus construits, beaucoup plus écrits en un sens, où il y a de la polyphonie, des thèmes qui se développent, qui se croisent. Et le dernier ingrédient qu'on a voulu mettre aussi dans le film, c'était de l'improvisation, parce qu'en fait, quand j'écris de la musique, d'ailleurs je dis j'écris, mais c'est assez faux, parce que j'enregistre beaucoup de musique pour trouver des idées musicales, mais je ne les écris que, j'écris des thèmes uniquement quand je dois les faire jouer par des instrumentistes. J'écris très rarement de la musique pour moi-même, en fait, je la joue directement. Et donc, on a pensé à des thèmes et on voulait aussi que sur un canevas qu'on avait défini, les musiciens, lors de la séance d'enregistrement, puissent essayer des choses. Évidemment, on les dirigeait, mais de trouver des sons. Il y a des textures assez étranges. Il y a des dissonances. Il y a presque des saturations dans des sons de clarinette ou de clarinette basse. Je pense vont assez bien avec la colère de l'enfant.
Ah oui, il y a un travail d'immersion, de sensoriel, quoi, qui parle à notre estomac. On est vraiment dans un rythme perpétuel, et donc il y a le rythme, mais il y a aussi quelque chose, comme dans ce morceau, de plus langoureux, de plus climatique, presque de plus contemplatif.
Le film n'a pas de dialogue. Il y a une grande part de la narration qui passe aussi par le son et la musique. D'installer aussi un climat, une atmosphère par le son et le son des instruments, indépendamment même des thèmes qui sont joués, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment installer parce que ça permet aussi de trouver une sorte de géographie sonore comme ça qui est un peu inédite et qui permet de donner une identité au film et qui va faire que le film ne ressemblera pas à une autre histoire. On a beaucoup réfléchi, oui, sur le son, les textures et l'atmosphère qu'on voulait donner à certains passages. Ouais. C'est un luxe absolu de mon point de vue de pouvoir penser le son et la musique ensemble. Ça permet de créer des partitions sonores et musicales complètement uniques et cohérentes. Et ça permet aussi souvent de ne pas répéter une chose par la musique alors qu'elle existe déjà par le son, ça permet de faire des choix assez utiles. Parfois, ça fait gagner du temps. ça peut faire, ça peut enlever du travail, mais dans le bon sens du terme. Ça, c'est vraiment l'animation qui m'a apporté ça. C'est quelque chose que je regrette presque en tant que spectateur dans le cinéma en prise de vue continue, c'est que souvent on segmente un peu trop finalement les métiers pour plein de raisons différentes, bonnes ou mauvaises. Mais voilà, en animation, on a parfois encore ce luxe-là de pouvoir tout penser en même temps, de manière groupée, entre le son et la musique.
Et le temps d'élaboration d'un court-métrage d'animation, c'est une durée assez longue, non ? Combien de temps, en fait, entre le début et la fin ?
Pour ce film, il y a eu pratiquement 6 mois de tournage, parce que c'était un mode de fabrication traditionnel, donc c'était très long, il y avait une équipe quand même assez conséquente. Mais pour la musique, on a eu, oui, ce qu'il faut dire d'important, c'est qu'on a eu la très grande chance d'avoir été sélectionné pour une résidence qui s'appelle La Chaise Dieu, qui est à La Chaise Dieu, et qui en fait offre la possibilité aux compositeurs et à la réalisatrice de venir enregistrer la musique d'un court-métrage pendant 5 jours dans un superbe auditorium en bois dans la ville de La Chaise Dieu, en Haute-Loire, avec des musiciens interprètes, un ingénieur du son, que je salue, Mathias Chaumet. Et ça, c'est vraiment un luxe pour des courts-métrages, parce que je pense, avec le recul, qu'on a eu des moyens aussi pour produire cette musique, que certains longs-métrages d'auteurs indépendants n'ont pas. La plupart du temps, pour des courts-métrages, on a une demi-journée, une journée et demie, grand maximum, en studio, avec un ou deux instrumentistes, quand on ne fait pas tout soi-même. Et donc, voilà, de se retrouver tout d'un coup avec beaucoup de moyens, c'est quelque chose de fantastique quand on sait quoi en faire. Et on s'était beaucoup préparé pour ça, justement, pour pas gâcher notre temps disponible en studio. On avait très conscience, en fait, que ce temps était précieux. Et donc, voilà, on a beaucoup travaillé en amont du studio pour arriver à enregistrer le maximum de musique pour le film une fois sur place.
Et j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai confort finalement sur ce film, bien que ce soit un court-métrage, un confort économique pour avoir les sons réels, un confort en termes de durée, 6 mois, un confort d'une collaboration qui dure depuis 2008, un confort, j'ai l'impression, de carte blanche. Il n'y a pas eu trop d'indications ou de références exprimées par Agnès Patron. Est-ce que vous pensez, voilà, être vraiment dans une collaboration idéale, ou alors il y a eu quand même quelques contraintes auquel s'accommoder?
Totalement, c'est vraiment une collaboration idéale, et je pense qu'il y a une vraie confiance réciproque, et ça donne vraiment des ailes pour créer et trouver des idées. Ça donne aussi envie de se dépasser chaque fois qu'on travaille sur un nouveau projet, pour justement ne pas s'endormir sur ses propres lauriers. Mais le confort, moi le point vraiment de satisfaction, c'est d'avoir pu me servir des moyens importants qu'on m'a donnés sans les gâcher, en fait, parce que évidemment sur tous les courts-métrages sur lesquels j'ai travaillé, parfois j'ai eu très très peu de moyens, et ça veut pas dire que le résultat est inintéressant, mais je pense que le danger pour un créateur, c'est le jour où il a beaucoup de moyens, de ne pas savoir quoi en faire, ou d'en utiliser que la moitié, ou d'en utiliser le maximum sans avoir réfléchi dans quelle direction il voulait aller. Et je pense que voilà, ce qui était le maître mot, c'était vraiment le dialogue et la compréhension mutuelle entre le compositeur et la réalisatrice, en l'occurrence, pour vraiment aller vraiment droit au but, parce qu'on avait beaucoup pensé la partition en amont de l'enregistrement, ce qui est toujours important à mes yeux. J'aime tellement le son acoustique que j'étais très très sceptique pendant très longtemps, en fait, d'utiliser des samples, mes oreilles m'ont convaincu parfois d'en utiliser, parce que ces samples, certains ont atteint une telle qualité, une telle musicalité, qu'en fait c'est vraiment très utile quand on n'a pas d'autres moyens. Mais voilà, pour moi c'est un dernier recours, et quand on a la chance d'avoir des musiciens, ce qui est vraiment irremplaçable, c'est l'interprétation et le dialogue entre le compositeur et l'interprète. J'étais très admiratif des musiciens qui ont fait cette session d'enregistrement, parce que je leur donnais des idées assez précises, mais en fait, ils avaient beaucoup de beaucoup de générosité dans ce qu'il donnait, et on a obtenu des textures auxquelles je m'attendais pas forcément, et qu'on a vraiment réutilisé par la suite en post-production sur des, notamment tous les passages un peu expérimentaux du film. Je dois aussi beaucoup à ces musiciens-là de s'être prêtés au jeu, parce que c'est souvent des musiciens qui viennent du monde de la musique classique. Je pense notamment au violoncelliste sur le film. Il y avait deux violoncellistes. Voilà, donc c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'improviser et qui ont un parcours très opposé au mien en un sens. Et ce que je trouve assez génial, c'est quand on peut se retrouver sur un projet où il y a à la fois de la musique écrite et de la musique très expérimentale en un sens. Je pense que chacun a chacun joue un rôle au service du résultat, et donc quand tout fonctionne, c'est vraiment un bonheur.
Et ça fonctionne donc sur L'heure de l'ours.
Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé.
Et Pierre Oberkampf, pour terminer, au-delà de votre musique sur L'Heure de l'Ours, quelles sont vos autres actualités ?
Je travaille sur beaucoup de nouvelles musiques de courts-métrages. Je viens de terminer une musique pour un court-métrage en prise de vue continue, un film de Francesco Artini qui s'appelle « Pour que rien ne change ». Et j'ai terminé aussi il n'y a pas très longtemps une musique pour un autre court-métrage de Benjamin Bunel qui s'appelle « Les derniers feux », qui est un court-métrage que j'aime beaucoup, qu'il a tourné pendant le dernier festival de Cannes, un peu sur le à la façon de Chris Marker dans La Jetée, à partir de photographies argentiques qu'il a réalisé avec talent, avec la comédienne Clotilde M. Et plusieurs 4, 5, 6 courts-métrages à peu près en préparation aussi. Le Covid-19 ralentit un peu rallonge plutôt les calendriers de production de ces films-là. Mais c'est en même temps, l'avantage, c'est que ça laisse plus de temps pour réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc voilà. Et puis par ailleurs, d'autres projets aussi de création de musique indépendamment de l'image, parce que finalement j'aime bien faire des allers-retours entre la musique à l'image et la musique tout court.
Merci Pierre Oberkampf, bravo encore pour votre prix, à bientôt pour la suite.
À bientôt et merci beaucoup.
Merci, et on termine donc avec un nouvel extrait de la musique de L'Heure de l'Ours.